Décryptage. Anne Corpet.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Décryptage. Depuis de longues semaines, les yeux du monde sont braqués sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Moscou y a déployé 100 000 soldats, gonfle les muscles au gré de manœuvres militaires massives. Et de Washington à Bruxelles, en passant évidemment par toutes les capitales d'Europe de l'Est, on s'interroge. Attaquera, attaquera pas, chacun y va de son pronostic, hein, et l'escalade verbale entre les puissances se poursuit, tandis que pour l'instant, bien sur le terrain, à la frontière, règne une forme de calme inquiétant, et au Donbass se déroule depuis 2014 une sorte de guerre hybride. Alors, la Russie n'a sans doute pas intérêt, hein, à se lancer dans une nouvelle aventure militaire, d'autant que depuis l'annexion de la Crimée et la guerre au Donbass en 2014, l'armée ukrainienne a bénéficié du soutien américain. Mais Vladimir Poutine veut consolider, voire étendre sa sphère d'influence. Il rêve de rendre à la Russie le prestige de son passé. Et à l'égard de l'Ukraine, Moscou réagit parfois de manière peut-être plus émotionnelle que rationnelle. Alors pourquoi l'Ukraine suscite-t-elle tant d'intérêt à Moscou? Les deux pays sont-ils condamnés à une destinée commune, comme le laisse entendre le Kremlin? Pourquoi l'Ukraine veut s'affranchir de l'influence de son grand voisin de l'Est pour se tourner vers l'Ouest? Les Occidentaux ont-ils une part de responsabilité dans la surenchère des tensions? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette émission. Et pour évoquer le sort de l'Ukraine prise en étau entre les puissances, deux invités nous ont rejoints par téléphone, Covid oblige. Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, auteure de « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre ». Bonjour.
Bonjour.
Et Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, auteure du podcast « Le Podcause » consacré aux sociétés post-soviétiques. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes donc entre femmes aujourd'hui pour tenter de mieux comprendre la crise autour de la frontière russo-ukrainienne. Alors, il faut remonter loin dans le passé, hein, parce que comme dans toute crise, eh bien, le poids de l'histoire joue un grand rôle. Les deux pays partagent des racines communes. Kiev était la capitale de la Russie médiévale et à Moscou, l'Ukraine est perçue comme le berceau de la Russie. D'ailleurs, dans un texte publié en juillet dernier, Vladimir Poutine a écrit que les Russes et les Ukrainiens étaient une seule nation appartenant à un seul et même espace historique et spirituel. Anne Colin-Lebedev, ce que dit Poutine, c'est une réalité historique ou c'est un mythe ancré dans le cœur des Russes?
Il faut bien se dire qu'on parle là d'une histoire qui a 1000 ans. Et en 1000 ans, on a des peuples qui ont suivi leur chemin, tout comme c'est le cas, par exemple, en Europe occidentale. Donc aujourd'hui, quand Poutine mobilise ce discours sur la Rousse de Kiev en la rattachant à la Russie contemporaine et en parlant d'un destin commun, en réalité, il ne parle pas de destinée historique. Il parle de ses visées contemporaines et plutôt de l'importance contemporaine qu'a l'Ukraine. Alors je dirais davantage pour le pouvoir politique russe que pour les citoyens russes qui, eux, se sentent effectivement proches des Ukrainiens, mais qui ne manifestent pas particulièrement un désir d'être réunis au sein d'un seul État.
Alexandra Goujon, c'est une vérité historique ou c'est aussi une manière de nier finalement les spécificités d'une nation, l'Ukraine?
Oui, il y a l'idée faire partie d'un même espace historique, ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire partie du même État. Hein. Et lorsqu'il fait sa déclaration en disant que les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple, l'idée est véritablement de nier, ce qu'il a pu faire aussi dans d'autres déclarations, l'existence ou la légitimité de l'État ukrainien contemporain. Il faut quand même rappeler que cet État ukrainien est indépendant que depuis 30 ans, mais en fait, les Ukrainiens l'inscrivent, j'allais dire, dans une longue tradition historique de lutte pour l'indépendance. Alors, qui commence, on va dire, réellement à la période un peu plus moderne, au 19e siècle, avec un mouvement de renaissance nationale, mais qui a eu beaucoup de mal à se développer au sein de l'Empire russe, et puis après au sein de l'Union soviétique, même s'il faut rappeler que la République socialiste soviétique d'Ukraine reconnaissait quelque part, d'une certaine manière, l'existence d'un peuple ukrainien.
Alors, côté ukrainien, la vision de l'histoire est évidemment différente. Il y a des traumatismes. Hein. Il y a le traumatisme de ce qu'on appelle l'Holodomor, la grande famine qui a fait plusieurs millions de morts dans les années 30 en Ukraine. Kiev qualifie cette tragédie de génocide orchestré par Staline. Moscou rejette cette version. Il y a aussi le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Anna Colin-Lebedev, cette histoire douloureuse, ça alimente toujours le désir d'affranchissement de l'Ukraine?
Alors, cette histoire douloureuse a effectivement été mobilisée, notamment au moment de l'indépendance ukrainienne et puis un petit peu plus tard, hein, pour signifier qu'une distance devait être prise avec le passé soviétique et que l'Ukraine contemporaine n'était pas dans la filiation de l'URSS. Mais je dirais que ces questions mémorielles qui auraient pu rester l'apanage d'historiens ont été véritablement réactivées à partir de 2014 et de l'annexion de la Crimée et de l'intervention militaire russe pour soutenir les mouvements séparatistes du Donbass, dans la mesure où, je dirais, à ce moment-là, tout a fait sens pour les Ukrainiens d'une manière, voilà, une nouvelle lecture devenait possible et crédible, la lecture qui présentait en fait la Russie comme un agresseur permanent, comme un agresseur qui, tout au long du XXe siècle, a cherché à asservir l'Ukraine, voire à exterminer les Ukrainiens, et qui, quelque part, depuis 2014, est vu par de plus en plus d'Ukrainiens comme continuant à faire la même chose, continuant à faire ce que Staline a commencé en Union soviétique.
Oui, en fait, du coup, Moscou a en quelque sorte confirmé les craintes des Ukrainiens avec l'annexion de la Crimée et cette guerre au Donbass et accéléré le rejet de la tutelle russe. D'ailleurs, ça passe par des choses très concrètes, hein, par exemple dans l'usage de la langue russe qui recule en Ukraine. D'ailleurs, en décembre dernier, Vladimir Poutine dénonçait la russophobie des Ukrainiens dans le Donbass avec des mots très forts. On écoute le président russe.
Je dois parler de la russophobie comme d'un premier pas vers un génocide. C'est ce qui se passe en ce moment dans le Donbass. Nous le voyons bien, nous le savons.
Alexandra Goujon, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas lui-même finalement créé les conditions de ce qu'il dénonce ?
Il n'a pas créé les conditions parce qu'il n'y a pas d'extermination de la population russophone en Ukraine.
Je veux dire la russophobie.
Ouais. Sur la russophobie, je reviendrai. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rebondit avec le terme que vous avez utilisé, hein, c'est-à-dire qu'en Ukraine, on considère la famine ukrainienne, en tous les cas le Parlement ukrainien avait adopté une déclaration pour le considérer comme un génocide. Et là, on voit très bien comment c'est une espèce de riposte. Hein, on est vraiment dans une guerre des interprétations historiques. Et là, en quelque sorte, Poutine sait très bien que le terme de génocide va frapper les esprits. Et ça vient justifier, en fait, une intervention militaire et politique dans le pays. C'est aussi une manière d'inverser les responsabilités. C'est-à-dire, comme l'a dit Anna Colin-Lebedev, aujourd'hui, il y a quand même l'idée que c'est la Russie qui est agresseur. Or là, ce que veut faire Poutine, c'est faire passer les Ukrainiens pour des agresseurs, ou voir l'État ou les dirigeants ukrainiens. Alors la russophobie, je crois que c'est très compliqué. Son compo dire, c'est que depuis l'annexion de la Crimée et l'intervention russe dans le Donbass, effectivement, il y a un relan de patriotisme en Ukraine, et certains, effectivement, peuvent exprimer. J'ai eu des témoignages en ce sens quand j'y étais au mois de novembre, de gens qui m'ont dit je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ce sentiment anti-russe. Hein. C'est-à-dire qu'en Ukraine, il y a des nationalistes qui considèrent effectivement que, on va dire, la Russie est un agresseur avant 2014, mais ils sont vraiment, j'allais dire, minoritaires. Hein. Or là, ce sentiment, effectivement, existe, mais la même personne qui me disait ça est russophone. Donc en fait, c'est vraiment l'action de l'État russe qui est condamnée aujourd'hui en Ukraine.
Alors, côté russe, en revanche, vous l'avez dit, hein, Vladimir Poutine se pose presque en victime, notamment des actions de l'OTAN. La ligne rouge des Russes, c'est bien l'entrée de son grand voisin dans l'OTAN et même les manœuvres de l'OTAN aux frontières russes. Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, il veut même imposer ses conditions à l'Alliance Atlantique et toutes les manœuvres de l'Alliance à proximité des frontières russes est perçue comme une provocation. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, l'a rappelé début décembre à Stockholm.
L'OTAN refuse d'examiner de manière constructive nos propositions visant à faire baisser les tensions et à prévenir les incidents dangereux. Au contraire, l'infrastructure militaire de l'Alliance se rapproche de manière irresponsable des frontières de la Russie, avec des systèmes de défense antimissiles déployés en Roumanie et en Pologne qui pourraient être utilisés comme système de frappe. Des missiles américains à moyenne portée sont sur le point d'être installés sur le territoire européen. Le scénario cauchemardesque de la confrontation militaire revient. L'aide militaire extérieure alimente la volonté de Kiev de saboter les accords de Minsk et nourrit l'illusion que le conflit peut être résolu par la force.
Alors, c'est le moment où on peut s'interroger sur la responsabilité des Occidentaux ou au moins sur leur maladresse, parce qu'en 2008, l'Alliance Atlantique a proclamé la vocation de l'Ukraine à rejoindre ses rangs. Alors, même si ça ne signifie pas le début d'un processus d'adhésion de l'Ukraine, est-ce que vous ne pensez pas, Alexandra Goujon, que cette déclaration était imprudente? Les Alliés n'avaient pas anticipé qu'elle allait évidemment provoquer une réaction de Moscou?
Tout ce qu'on vient d'entendre et la question que vous posez, elle est liée à la question de la souveraineté de l'Ukraine. Est-ce que l'État ukrainien est indépendant et peut décider lui-même de sa politique étrangère? Les Occidentaux ont considéré qu'à partir du moment où l'Union soviétique avait éclaté, qu'il y avait des dirigeants et des États indépendants, eh bien qu'on dialoguait avec ces États. Donc voilà.
Sans comprendre, par exemple, que pour la Russie, bah, même si l'Ukraine était un État indépendant, c'était quand même une sorte de zone intouchable, un peu comme, je sais pas, l'Amérique latine pour les États-Unis, par exemple.
Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on anticipe la volonté russe de créer une sphère d'influence? Vous voyez, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une époque justement de sphère d'influence, et à partir du moment où il y a des sphères d'influence, on les anticipe, on contribue à les créer? Moi, je pense en fait qu'il ne faut, en dehors de la responsabilité occidentale, en fait, la responsabilité occidentale, pardon, elle vient répondre en fait à une demande ukrainienne. Et la question, c'est est-ce qu'on ferme la porte? Est-ce qu'on ferme la porte parce qu'on anticipe le voisin? Il y a quand même, si vous voulez, une espèce d'inversion là des responsabilités. C'est-à-dire, la Russie se sent menacée d'une agression qui n'existe pas. Et or, aujourd'hui, c'est bien l'Ukraine dont le territoire est violé par une annexion de la Crimée et une intervention dans le Donbass. Donc voilà, c'est assez intéressant, puisque la Russie présente vraiment l'élargissement de l'OTAN comme une menace, alors que son territoire aujourd'hui n'est pas touché.
Anna Colin-Lebedev, vous partagez cette analyse? L'Occident n'a pas été maladroit avec cette déclaration sur l'OTAN, mais aussi avec l'engagement de l'Union européenne en 2007 dans la négociation d'un accord d'association avec Kiev?
Je partage complètement l'analyse d'Alexandra Goujon, et je dirais même que, en termes symboliques, pour l'Union européenne, l'Euromaïdan et le désir qui était la révolution donc à Kiev, qui a servi de point de déclenchement de l'intervention russe en Crimée dans le Donbass.
Oui, parce que le président de l'époque, Yanukovych, pro-russe, avait refusé justement de signer cet accord avec l'Union européenne.
Exactement. Et la société ukrainienne à ce moment-là, donc celle qui était réunie sur la place Maïdan, mais aussi ailleurs dans le pays, a manifesté un très grand désir de rejoindre l'Europe. Rejoindre l'Union européenne, non seulement pour des questions de sécurité, comme ça peut être le cas pour l'OTAN, mais aussi pour des questions d'adhésion à des valeurs. Et je pense que l'Union européenne ne pouvait décemment pas, en fait, rejeter un pays qui souhaitait participer à un grand projet de paix, de prospérité, d'espace commun, d'espace ouvert. À mon sens, si on avait pensé refuser cette cette association à l'Ukraine à ce moment-là, eh bien, je dirais quelque part, on niait complètement effectivement la souveraineté ukrainienne, mais on niait aussi ce qui faisait l'essence du projet européen.
Au fond, on a l'impression, à vous écouter, que la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre ne fonctionnent vraiment pas avec le même logiciel, avec une Russie toujours concentrée sur ce concept de sphère d'influence et avec un Occident qui soutient les aspirations de chaque pays de manière plus individuelle, j'allais dire. Et l'Ukraine génère systématiquement une forme de bug entre ces deux pôles. Début janvier, Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, était dans le Donbass et il a réaffirmé le soutien de l'Union européenne à la souveraineté et à la sécurité de l'Ukraine. Je vous propose de l'écouter.
Everything is different. Cette fois, c'est différent. Il y a les troupes massées à la frontière de l'Ukraine, mais il y a aussi cette demande de négocier au sujet de deux traités que la Russie a proposés pour discuter autour de la sécurité en Europe. Mais nous ne sommes plus au temps de Yalta. La délimitation de sphères d'influence entre deux grandes puissances ne fait pas partie de 2022. Nous voulons la désescalade par le dialogue, mais avec la position forte que toute agression militaire contre l'Ukraine aura des conséquences massives et un coût élevé.
Nous ne sommes plus au temps de Yalta, dit Josep Borrell. Alexandra Goujon, Vladimir Poutine, lui, est-il toujours au temps de Yalta ?
Bah, on a le sentiment, effectivement, hein, l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, c'est quand même l'idée de la restauration de l'État russe, à la fois, de l'État russe en tant que tel, en termes de politique intérieure, mais aussi de l'État russe sur la scène internationale. Et l'idée aussi, tout de même, hein, il faut le voir, c'est que Vladimir Poutine a aussi ce projet d'union économique eurasiatique à laquelle appartient la Biélorussie, l'Arménie, hein, et pour lui, en quelque sorte, il faudrait logiquement que l'Ukraine fasse partie de ce projet d'intégration qui est comme un espèce de projet miroir, on va dire, à celui de l'Union européenne. Et je voulais aussi mentionner quelque chose, c'est-à-dire que l'accord d'association dont nous avons parlé entre l'Ukraine et l'UE, c'est bien un accord qui participe de la politique voisinage de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne n'a fait aucune promesse
d'adhésion oui.
Hein, oui. À l'Ukraine. Et c'est important de le mentionner, c'était juste une réponse alors que les Ukrainiens demandaient une perspective d'adhésion.
Il faut aussi évidemment revenir sur le Donbass. Hein, c'est l'épicentre du conflit qu'oppose depuis 2014 les forces de Kiev aux séparatistes pro-russes appuyés par Moscou. Il y a deux petites républiques autoproclamées qui s'y sont formées, Louhansk et Donetsk. Or, Moscou n'a jamais reconnu leur indépendance. Comment expliquer cela, Anna Colin-Lebedev ?
Alors, je pense que quand on prend les dynamiques de 2014-2015, la Russie ne sait pas exactement si elle veut rattacher des territoires, les garder autonomes, les reconnaître comme comme État indépendant ou pas. Mais à mon sens, progressivement, en fait, la stratégie de la Russie a été de soutenir ces territoires autoproclamés, de maintenir le conflit dans un état latent, ni gelé, ni actif. Hein. La guerre n'a jamais véritablement cessé entre les territoires séparatistes et Kiev, surtout pour en fait maintenir une zone d'instabilité permanente en Ukraine. Hein. Ne pas laisser l'Ukraine s'éloigner, c'est aussi en fait lui mettre un handicap et un boulet qu'elle porte à son pied de manière durable.
Sans vouloir pour autant conquérir.
Tout à fait, sans vouloir conquérir. Je pense que la Russie aujourd'hui n'a absolument aucun projet d'annexion de ces territoires qui étaient des territoires industriels prospères avant la guerre, mais qui depuis la guerre en fait sont des zones dévastées avec une situation économique complètement exsangue, nourrie par Moscou, avec un pouvoir installé et contrôlé par Moscou. Mais je dirais que Moscou n'a aucun intérêt à faire de ces régions des régions de la Fédération de Russie. La Crimée, déjà, dont l'annexion a été rapide et n'a pas posé beaucoup de questions à la population russe, la Crimée, aujourd'hui, coûte très cher à la Fédération de Russie. C'est une région qui reçoit énormément de dotations, mais c'est le prix à payer pour le prix de l'annexion est celui-là. Pour les républiques séparatistes, l'avantage de les intégrer serait nul. L'avantage de les garder est très élevé pour Moscou.
Merci beaucoup. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Alexandra Goujon, Anna Colin-Lebedev, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Décryptage.
Tous les jours, Accent d'Europe.